Bonsoir tout le monde. On va essayer de parler des autres céréales qu'on est en train de malter. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les céréales sont maltables. Tout ce qui peut germer, il y a une activité enzymatique. On peut faire du malt avec. C'est pour ça, voilà, on parle du malt de blé, malt d'orge, malt de sarrasin, malt d'avoine, malt. La chose la plus compliquée au début, c'était de choisir les orges qu'on va malter. Parce qu'il y en avait beaucoup. Et dès qu'on se dit, voilà, est-ce qu'on va travailler pour la microbrasseur, parce qu'ils utilisent quelques maltes qui viennent d'autres céréales, à part l'orge. Et ce qu'il faut savoir aussi, on parle d'autres céréales maltables, mais sachez bien que ces céréales-là, vous pouvez les utiliser comme les flocons, comme des grits, c'est tout. OK ? Du coup, là, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est de voir comment on choisit. Pourquoi on essaye de malter autre chose que l'orge? En général, on essaye de rajouter d'autres céréales maltables. On va dire, voilà, du coup, il faut malter parce que ça apporte des enzymes, ça apporte du goût, ça apporte. Les grains deviennent plus friables. Et en même temps, ça nous permet de faire un peu une bière 100% malt. Et du coup, soit on choisit ces céréales, c'est pour l'extrait. On veut améliorer l'extrait. C'est par exemple le blé, c'est par exemple le riz, c'est par exemple le maïs. C'est des choses qu'on peut rajouter pour avoir de l'extrait. Sinon, c'est apport spécifique en termes de troubles et de mousse à la bière. Parce qu'on peut faire une bière 100% orge, mais pour améliorer sa mousse, pour améliorer son trouble et tout, on utilise d'autres céréales. C'est pour ça l'idée, voilà, de se dire, voilà, il faut malter autre chose. OK? Et en même temps, des fois, avec du pire pils, si on a un malt très désagrégé, avec un brassage très, très poussé, on va avoir des bières aqueuses, d'où l'idée voilà, d'avoir d'autres céréales qui vont apporter des moelleux à la bière. Okay et en même temps, aujourd'hui, voilà, vous avez tous entendu voilà, des bières sans gluten. Et en général, c'est le plus grand allergène dans la bière, le gluten. Et pourquoi le gluten, c'est pas bon? Il y a des gens qui ont des intolérances. Du coup, ce qu'on a fait, il y a des céréales qui ne contiennent pas de gluten. Du coup, quand on les malte, ça va donner des bières free gluten ou sans gluten. OK? Et sachez bien, après, pour les bières sans gluten, on peut utiliser des fois des enzymes qui vont enlever du gluten. OK? Et autre chose qu'on utilise ici, c'est par rapport au potentiel enzymatique. Sachez bien qu'il y a des céréales qui ont un potentiel enzymatique plus important que l'orge. Pour les orges, juste pour rappel, il y a des orges de rang et les orges de sirop. Les orges de sirop, ils ont un potentiel enzymatique plus important que les de rang. Mais si on regarde pour le blé a un WK, un pouvoir diastasique. Imaginez, le pouvoir diastasique pour le Pilsen, il est, on va dire, 200. À peu près, 200 ppm. Et quand on est avec le blé, on est aux alentours de 500 minimum. Et avec des blés qui sont vraiment spécifiques, on va dire qu'on a vraiment sélectionné des chansons ou des triterdiums, comme on a là-bas, c'est un hybride, on peut aller jusqu'à 800 ppm. Sans acide gibérylique. OK voilà, en plus des potentiels enzymatiques, on parle de la taille et des grains. Ce qu'il faut savoir, c'est le calibrage, c'est très très important pour le malteur et pour le brasseur. Pourquoi c'est important pour le malteur? Imaginez si j'ai des gros grains et des petits grains. Il y a les gros grains qui prennent l'eau plus facilement que les petits, par exemple, ou l'inverse. Et du coup, on ne peut pas travailler. Soit on travaille pour les gros grains, soit pour les petits grains. C'est pour ça qu'on fait toujours des calibrages. Et sachez bien, pour le calibrage, par exemple, d'orge, on parle d'un calibrage 2,5 mm. Mais pour le sarrasin, l'avoine et tout, c'est un autre calibrage. On part vraiment vers 1,2, 1,8 maximum millimètres. Pourquoi? Parce que les grains sont petits. Sinon, si on commence à faire 2,2, 2,5, il y a tout qui part à travers les grilles. Okay? Et ça, c'est très important. Même vous, si vous avez une céréale que vous dites, voilà, je veux la malter, c'est des choses très importantes, on va dire, à surveiller. OK? Comme ça, ça va vous éviter un peu de planter quelque chose qui ne sera pas maltable après, ou qui sera maltable mais qui ne va pas donner une bonne bière, ou le malteur ne pourra pas malter. OK? Et disponibilité de la céréale. Il faut toujours malter quelque chose qui est disponible, ça c'est très important. Et la dernière chose, c'est la chose la plus importante, il y a beaucoup de débats autour de ça, c'est la température d'empesage. Et, vous savez c'est quoi la température d'empesage? L'amidon? Imaginez l'amidon dans la céréale, il est comme ça. C'est d'accord, c'est comme une pelote. Hein. De plus en plus que j'augmente la température, il va commencer à s'ouvrir, à s'ouvrir, à s'ouvrir, à s'ouvrir. Hop ! Et d'un seul coup, il s'ouvre. Et c'est à cette étape-là que les enzymes peuvent venir le couper. Les ciseaux peuvent venir couper l'amidon pour faire des petits morceaux que la levure peut utiliser après. Et sachez bien que la température d'empesage, même si on dit pour la céréale, l'orge par exemple, c'est entre 60 et 65, sachez bien que ça change sur chaque récolte presque. Hein. C'est pour ça qu'il y a des années, on a atteint les 66, les 67, température d'empesage. Et c'est pour ça que ce qui vous est arrivé, c'est possible. Vous avez brassé avec de l'orge cette année, et puis la température d'empesage, vous avez mis, j'ai l'habitude de travailler à 63, et là, vous vous retrouvez avec un extrait très faible. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas atteint la température d'empesage. À cette étape-là, l'amidon est resté dans la drèche. OK ? Et ça, c'est très important. Sachez bien que chaque céréale a sa température d'empesage. OK ? Ça, c'est très important parce que si... En fonction de la température d'empesage, je vais savoir si je dois mettre l'orge, la céréale à l'empattage, à l'ébullition, par décoction, à l'empattage ou à la fin ou par décoction. Soit j'utilise le brassage décoction à fusion, ok ? C'est clair pour les températures d'empesage à peu près ? Du coup, la température d'empesage, ça diffère en fonction des variétés, de la céréale et de la récolte. C'est pour ça que vous, ce que vous allez faire en tant que brasseur, chaque année, demandez à votre fournisseur de malt ou les instituts qui sont spécialisés les températures d'empesage. Et c'est en fonction de ça que vous allez régler votre process. OK ? C'est très important. Hein. Et si vous voulez utiliser des coups les malt, les autres céréales qui ne sont pas en dehors de l'orge, il faut connaître leur température d'empesage. OK ? Et vous pouvez les demander aussi sur toutes les céréales que vous utilisez chez vous. OK ? Du coup, mais imaginez, je vais prendre une gorgée de bière, hein, parce que là, hop là. Du coup, imaginez, même si j'ai la bonne céréale, j'ai tout ce qu'il faut pour malter, il faut faire des tests. Hein, et les prochains tests, ce qu'on a, c'est il faut faire des analyses physico-chimiques de la céréale. La chose la plus importante, il y a la protéine, la teneur en eau, mais ça, c'est, on n'a pas besoin. Et puis, ce qui est important, comme j'ai dit tout à l'heure, le calibrage, pour savoir si c'est le malteur en fonction de ce qu'il a comme moyen ou capacité de peut le faire malter ou non. Okay ? Et la sensibilité à l'eau. La sensibilité à l'eau, c'est toute, chaque céréale, c'est est-ce que la céréale aime ou elle est sensible ou non à l'eau. Et ça, c'est très important. Si elle n'aime pas l'eau, je lui donne beaucoup d'eau. Elle va se noyer. Si elle aime beau, si elle aime énormément l'eau et je n'ai pas donné beaucoup d'eau, elle ne va pas germer comme il faut. OK ? Ça, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en général, ces céréales maltables, autres que l'orge, des fois, ça vient des microbrasseurs pour ce qu'on appelle les maltages à façon. OK ? Et là, on dit l'indice de germination, ça. C'est important quand ça arrive à la malterie. L'indice de germination, c'est combien qui est le pourcentage de grains là où le germe est vivant. Ce qu'il faut savoir, si le germe est mort, il ne va pas germer. Et si ça ne germe pas, ça reste toujours un grain glacé, un grain qui a pas d'enjeu. C'est comme si j'utilise directement la céréale telle qu'elle est. Okay ? C'est pour ça, si vous avez un indice de germination qui est, par exemple, allez, j'exagère un peu, à 80%, sachez bien, il y a 20% des céréales qui ne seront pas germables. OK ? Une fois qu'on a validé la céréale, c'est ce qu'on fait tout le temps. Hein. Une fois qu'on a validé la céréale, on dit voilà, le calibrage est bon, les protéines sont bonnes, l'indice de germination est bon, le temps de germination, la sensibilité. On fait ce qu'on appelle un micromaltage. Le micromaltage, c'est on prend 100 grains plutôt, de grains, et on fait un maltage à petite échelle. C'est avec un processus vraiment qui est dédié, c'est le BC aussi. Une fois qu'on a validé au micromaltage, on peut faire du maltage semi-industriel. Un maltage semi-industriel, pardon. Et sur ce maltage-là, on va faire toutes les analyses de l'orge. Et ça va nous donner une idée. Si la céréale est maltable ou non, même s'il est maltable, est-ce que ça va donner un bon malt ou non ? Ça, c'est très important. Parce que des fois, on fait au micromaltage, on sait bien, on dit au brasseur, je peux faire du malt, mais par contre, attention, cette céréale-là, il y a beaucoup de bêta-glucane. Si vous voulez que j'enlève les bêta-glucane, est-ce que je peux pousser plus pour faire de la couleur? Mais si je pousse plus, je vais faire de la couleur. Est-ce que ça vous dérange pas la couleur? Il y a toujours un compromis. On peut tout malter, mais en face, il faut que le client, voilà, sache ce qu'il va recevoir. OK? Et puis, ouais, une fois qu'on a fait le micromaltage, on fait des analyses physico-chimiques et organoleptiques, et on peut y aller jusqu'à faire une bière. C'est un petit peu la validation. C'est, c'est le CBMO avec IFBM qui fait ça. Ils vont jusqu'à la bière, les analyses de la bière, analyses sensorielles et tout pour valider une variété. Là, on n'y va pas à ce point-là, mais on se dit, voilà, ah, ça donne une bonne bière ou une mauvaise bière, qu'est-ce qu'il faut jouer sur la bière, OK? On avance. Ça, je vais faire rapidement. C'est rappel des étapes du maltage. La première étape, une fois qu'on a une bonne céréale, qu'on peut transformer et tout, on fait la première étape qui est la trempe. Sachez bien que la trempe est différente d'une céréale à une autre, d'une récolte à une autre. C'est pour ça qu'à chaque récolte, on fait les tests, ce qu'on a vu, pour adapter le process. Okay? Et la trempe, c'est là où le grain va boire de l'eau, ce qu'on appelle hydrater l'embryon. Et ça, c'est très, beaucoup, il y a des malteurs ici, c'est l'étape la plus importante dans le process. Si, imaginez le germe, c'est un être vivant. S'il est content, il va avancer, il dit waouh, c'est bon, il y a de l'eau, je peux boire, il boit. Mais s'il voit, oh, il y a encore trop d'eau, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, il se dit voilà, si je bois plus d'eau, je vais me noyer. Du coup, il arrête. Mais on fait ce qu'on appelle après l'étape sous air, là où il dit oh, je peux respirer là. Et du coup, il respire. Si les conditions sont idéales, et du coup, le grain va démarrer. Si on rate la trempe, sachez bien qu'on peut perdre même une journée en germination. C'est très c'est l'étape la plus importante pour la suite du maltage. Okay? Hop là. La germination. La germination, c'est la deuxième étape. Une fois que la trempe est bien faite, on passe à la germination. C'est là où on va produire des enzymes. On va produire des enzymes alpha, bêta, amylase, que tout le monde connaît, mais c'est là on va produire aussi les protéinases au début. Parce que vous savez, le grain, il y a des protéines. Mais des fois, quand vous avez le malt, il y a des acides aminés libres. Ça vient d'où? Ça vient des protéines. Du coup, on produit déjà des enzymes qui agissent, protéinases qui agissent pendant le maltage. Okay? Et cette étape-là, elle est vraiment très importante. Hein? C'est là où on va produire, comme j'ai dit, la totalité d'enzymes. Et en fonction de la conduite de la germination, je décide si je vais faire du Pilsen, je vais faire des Pale Ale, des Vienne et des Munich. Sachez bien que tous ces maths-là se font en grande partie pendant la germination. Et comment ça se fait? Imaginez si je prends un acide aminé, un sucre, je les mets ensemble, je chauffe. C'est ce qu'on appelle la réaction Maillard. La réaction Maillard, ça donne de la couleur. Imaginez maintenant, pour faire ça, pour dire voilà, je vais faire la réaction Maillard, il me faut quoi? Il me faut des sucres. Dans l'amidon, avec l'alpha-amylase, on a produit un peu de sucre. Hein. L'objectif du maltage, c'est pas produire du sucre fermenté, c'est rendre l'amidon disponible. Mais là, je vais faire un peu de sucre. Les protéines qui ont agi sur les protéinases qui ont agi sur les protéines, ils ont fait des acides aminés. Et j'augmente un petit peu la température, je vais faire de la couleur. Et pour augmenter la température, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle, on rentre en phase d'anaérobiose. J'arrête l'aération. Si j'arrête une heure, deux heures, ce qui va se passer, j'augmente la température, je fais de la couleur, et en augmentant la température, je vais augmenter l'activité enzymatique. C'est pour ça, et je fais le tourillage comme si je fais des Pilsen. Imaginez, je fais le même process, je vous ai dit, j'arrête pendant deux heures, ça chauffe, et puis je fais le tourillage normal. Hein. Maintenant, je fais pareil. J'augmente pas la température, j'essaie de garder 18 degrés Celsius en dessous de la couche, hein, et je laisse, je fais le tourillage, je vais obtenir des Pilsen. Mais si je mets en anaérobiose pendant deux heures, maximum, hein, je vais faire du Pale Ale et du Vienne. Du coup, le Pale Ale est formé pendant la germination. Quand vous achetez du Pale Ale, regardez toujours la couleur elle-même. Il y a deux couleurs. Il y a la couleur EBC et la couleur post-ébullition, après-ébullition. Et si vous savez si c'est du Pale Ale ou des Pilsen, il faut qu'il y ait, par exemple, imaginez le Pale Ale, je suis à 5 EBC de couleur initiale. Couleur après ébullition, grâce à la réaction de Maillard, la couleur va augmenter. Vous êtes d'accord? Il faut que ce soit au moins 3 à 4 EBC de plus que le Pilsen, de plus que la couleur initiale. Ce qu'on ne trouve pas dans le Pilsen. C'est grâce aux acides aminés qu'on a, formés pendant la germination. Et puisque la germination était un petit peu plus haute, le Pale Ale a un pouvoir diastasique plus important que le Pilsen. Du coup, si vous achetez des Pilsen, du Pale Ale à 5 BC de couleur. Regardez l'activité enzymatique. Si vous voyez qu'il est inférieur à 200, c'est-à-dire 150, vous êtes en train d'acheter des Pilsen un peu plus colorés. Et c'est pour ça, quand vous faites... Ah, ok, doucement. Et c'est pour ça, quand vous faites des monopaliers, moi, je vous conseille soit d'utiliser le Pale Ale ou ce qu'on appelle les maltes un peu avec plus de pouvoir diastasique, parce que vous avez un seul palier et ça ferme, il faut que ça fermente, ok? C'est bon? Vous n'êtes pas d'accord, je suis sûr. Mais on va voir après, ok? C'est pour ça que je parle de la germination, c'est très très important. Et si je veux faire du Munich, c'est pareil, j'arrête pendant 4 heures à peu près et je fais la coloration à ce niveau-là, ok? Le tourayage, l'objectif du tourayage, c'est vraiment réduire l'humidité, hein, de 45% à 4,5% ou 5% d'humidité. Et c'est à ce moment-là aussi que je vais faire de la couleur. Et c'est à ce moment-là que je vais faire, en plus de la couleur, je vais créer les arômes aussi, ok? Tout ce qui est pain, tout ce qui est... C'est bon pour le maltage, pour tout le monde? Hop là. Là, vous allez dire, moi, c'est pas les autres maltes, mais je tenais vraiment à mettre ça. Dans la malterie, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les maltes caramel, cristal et tout. Mais ces maltes-là, on les fabrique différemment. Il y a le malt caramel, malt cristal, de différents cara comme on veut. Et il y a les maltes choco, les maltes torréfiées. Les maltes caramel et tout. Ce qu'il faut faire, il faut produire du sucre dans le malt vert, ce qu'on appelle malt vert avant tourayage. Une fois que j'ai produit un peu de sucre, j'augmente la température, soit pour caraméliser le sucre, soit pour cristalliser le sucre. C'est pour ça que quand vous prenez du malt caramel, par exemple, vous prenez le grain, c'est fait juste croquer, et vous regardez la moitié du grain, vous allez voir, j'aurai un mur de lumière qui est revenu. C'est pas cristallin, mais il y a un reflet de lumière, c'est tout. Mais si vous prenez des cristals, et vous regardez la moitié, vous allez voir, c'est comme si des cristaux, il y a de la lumière qui revient de partout. Ok? Et ce que je dis toujours, tout ce qui est torréfié ou caramélisé, il n'y aura pas toujours de pouvoir diastasique, il n'y aura pas d'enzyme dedans. Ok? Ça va vous apporter des moelleux, ça va vous apporter de la couleur, et ça améliore sûrement la qualité de la mousse. Hein, parce que tout ce qui est... Ça crée des liens, avec les liaisons covalente avec les liaisons H plutôt avec le tout ce qui est mousse et tout, ça améliore même la qualité de la mousse. Hop là. Là, c'est ce que j'ai dit. La torréfaction, par contre, pour faire le malt chocolat, le malt black, le malt. On fait du malt, un malt normal, hein, comme ça stocke bien. Et on fait dans un tambour, on peut augmenter l'humidité à 10-15% et on chauffe jusqu'à 220-250 degrés Celsius. Okay? Et c'est ce qui permet vraiment de faire un malt chocolat, un malt torréfié. Moi, ce que je dis aux malteurs, on essaye d'utiliser énorme sirop d'hiver pour la fabrication de ces maltes. Pourquoi? Parce qu'elle coûte simplement, elle coûte moins cher. Et elle a beaucoup de protéines aussi en général. Okay? Là, pour les autres maltes, à part l'orge, j'ai mis le blé. Le blé, c'est la deuxième céréale, on va dire, la plus utilisée après l'orge pour les cas des bières. On peut l'utiliser partout, hein, pour faire des bières blanches, pour faire des bières de blé, pour améliorer la qualité de la mousse. Hein. Je peux aller jusqu'à 10% à peu près sur toutes mes bières. Ça améliore toujours la qualité de la mousse. Mais faites toujours attention. Quand vous rajoutez du blé, il faut regarder toujours la teneur en protéines du malt. Hein. Okay? Parce que si vous rajoutez toujours, ça va améliorer la mousse alors qu'il y avait déjà de la mousse. Okay? Et en même temps, pour le malt, c'est le blé, on l'utilise parce qu'il apporte énormément d'extrait. Imaginez sur l'orge, l'extrait sec, il est, on va dire, à 82%. Ça dépend des récoltes. Dans le blé, on peut aller jusqu'à 86%. Et c'est là où je vais poser une question, c'est quoi? Je l'ai fait exprès, dire extrait sec. Quand vous allez acheter du malt, regardez toujours sur le bulletin d'analyse. Si c'est mis extrait, il faut toujours que ça soit indiqué. Est-ce que c'est sec ou humide? Par exemple, imaginez, je prends 100 kg de malt. Je brasse, je vais obtenir, on va dire, 80 kg d'extrait. 80 kg sur 100 kg de malt, ça fait 80% d'extrait humide. Maintenant, je vais calculer l'extrait sec. J'ai toujours 80% d'extrait. Mais au lieu de calculer ces 100%, je vais calculer sur 95%. Et du coup, je vais avoir un extrait de, au lieu qu'il soit 80, il sera à 4. Au lieu qu'il soit à 80, il sera à 82-83%. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il faut tenir au plus quand vous faites vos bières, l'extrait sec, humide plutôt, parce que ça ne rentre pas dans la teneur en alcool et tout. Et c'est pour ça qu'on veut acheter des maltes aussi, si vous pouvez exiger, dire voilà, au moins 4,5% d'humidité. Pas plus, hein ? Est-ce que c'est clair par rapport à ces extraits ? C'est très important quand vous achetez vraiment de regarder l'analyse. Hein. Même un sac, si vous achetez un sac, il faut qu'on vous donne un certificat, une analyse avec. Hein. Et c'est ça ce qui fait le charme d'un brasseur. Hein. En fonction, je peux faire une bonne bière, si je connais mon malt, il y a toujours quelque chose à faire. Soit j'ajoute un palier, soit je rajoute des enzymes. Il y a toujours un moyen de sauver. Mais si je ne sais pas et je me retrouve à la fin, à part faire quelque chose ou essayer de mélanger avec autre chose, c'est OK. C'est très important de regarder vos bulletins d'analyse, OK. Voilà. Le processus de maltage. Vous voyez les grains de blé et les dévêtus. Il n'y a pas d'enveloppe. Du coup, il est sensible. L'enveloppe, ça protège les grains. OK. Et mais, puisque là, mon grain, il est dévêtu, je mets de l'eau, l'eau va pénétrer rapidement. Okay. Du coup, il faut faire attention aux périodes de la trempe. Hein. Il faut la réduire, mais ça dépend aussi comme on a dit, c'est toujours... Je vais vous donner des valeurs, mais sachez bien que les valeurs changent en fonction de la récolte, tout le temps. Hein. Ça, c'est... OK. Et du coup, pour le grain, puisqu'il est dévêtu, imaginez-moi, je le mets en germination. Il y a un peu de sucre qui vont se former, qui vont se mettre sur le grain. Et quand je vais sécher, le sucre qui est autour, il va se coller. Au lieu de faire des grains de malt de blé, je vais faire des grands cailloux, même des amas de malt de blé. Et c'est très dur comme un caillou. OK ? Ça nous est arrivé dans une malterie, on a fait du malt de blé. En germination, c'est une germination, on va dire, tour. Hein. Et en étant dans le deuxième... Après, on commençait à sécher, mais on n'a pas fait beaucoup de retours hein, pour mélanger le grain, pour éviter qu'il y ait des feutrages ou qu'il se colle. À un certain moment, c'est collé. Il fallait ouvrir le mur, aller à l'intérieur pour essayer de tout enlever. C'est très dur, oui. Et cette malterie, même aujourd'hui, elle ne veut pas faire du mal de blé. Alors, avec les bons conseils, je dis, voilà, je parle de Patrick Bovin, on peut faire toujours un bon malt. Hein. OK. Et ce qu'on fait aussi pour le malt de blé, il faut toujours faire un maltage sur une couche plus fine que de l'orge. Nous, ce qu'on fait, on fait du malt de blé. C'est pour ça que des fois, il est un peu plus cher. Hein. On fait toujours une quantité moins importante que l'orge en hauteur. Mais sachez bien que le malt de blé, il ne se développe pas comme l'orge. Hein. Les racines, c'est les radicelles, c'est un peu beaucoup plus petit. Et du coup, ça prend moins d'espace aussi. Hein. OK. Et pour les utilisations du malt de blé, vous connaissez tous, c'est pour apporter de la mousse, apporter de l'extrait, apporter la fraîcheur à la bière aussi. Okay. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui fait des bières 100% malt de blé. C'est ce qu'on appelle les bières de malt de blé, 100%. Sinon, on rajoute un pourcentage d'orge et c'est ce qu'on appelle les bières blanches. OK. Et comme on sait bien, oui, il y a la mousse, il y a oui. Et l'activité enzymatique qui est plus importante. La deuxième céréale, c'est beaucoup plus, on l'a rajouté ici parce qu'il y avait des industriels, c'était international cette année, c'est la céréale utilisée beaucoup plus en Afrique, hein, puisqu'il y a le sorgho. Hein. Je crois qu'en Nigeria, ou je sais pas, ils font jusqu'à 122 000 tonnes cette céréale-là. Je crois que c'était, même il y a une interdiction d'importer l'orge de l'extérieur. Hein. OK. Et du coup, cette céréale-là, c'est du sorgho. Et je dis, voilà, pourquoi on n'essaye pas de malter ça? Mais sachez bien que le sorgho, c'est des petits grains de 1 et de 2, elle n'a pas un potentiel enzymatique important. Il est 50% presque inférieur à celui de l'orge. OK? Et du coup, pour cette céréale-là, l'avantage aussi, c'est une céréale sans gluten. Pour des allergènes et tout, on peut utiliser cette céréale-là pour faire de la bière sans gluten. Mais le grand problème avec cette céréale-là, c'est la température d'empesage. comme on a dit tout à l'heure, passage cette étape-là, à cet état-là, en général, on va dire aux alentours 60, allez, je dis 70-80, mais ça peut aller jusqu'à 79 degrés Celsius pour l'empesage. Et qui dit 79 dit il n'y a presque plus d'activité enzymatique. Et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser en décoction. On fait 2-3 décoctions. Et tout le monde sait c'est quoi décoction, infusion ? C'est bon ? Ok. Et cette céréale-là, elle est intéressante aussi, comme on a dit, à part son pouvoir diastasique qui est faible, elle apporte de l'extrait. C'est vraiment la céréale de base ou bien le malt de base, malt sorgho, qui est utilisé en Afrique pour faire des bières sorgho. Je ne sais pas si vous avez goûté, mais j'avais eu chance de goûter une fois. Pour moi, ça sent vraiment la pâte, ça sent vraiment le pain, ça sent le sorgho. Hein. Mais les gens qui ont l'habitude de boire ça, c'est ce qu'ils adorent. Du coup, oui, la bière ne sera pas bonne pour moi, je parle moi-même, mais pour eux, c'est ce qu'ils adorent. OK ? Et si vous voyez ici, on a parlé de la trempe. Elle est courte et chaude. Hein. Et quand on dit c'est chaud, et on fait une trempe ou une germination à 30 degrés, sachez bien que les mycotoxines, tout ce qui est mycotoxines et puis moisissures, elles vont se développer énormément. C'est pour ça qu'il faut toujours, pour le sorgho, il faut toujours faire attention à la microbiologie. OK, on va dire on s'en fiche de la microbiologie parce qu'il y a l'ébullition. Mais sachez bien que cette céréale-là est utilisée aussi dans quelques farines et quelques céréales aussi, à manger directement. OK. On a parlé brassage décoction. C'est bon pour le sorgho ? Sachez bien qu'on produit des sorgho aussi en France. Hein. Vous êtes agriculteur, OK. Et vous produisez des sorgho ? Non, OK. Ah, de l'épeautre aussi. Ah, par contre, l'épeautre, il y en a, OK. J'ai pas parlé d'épeautre, hein. Mais on peut en parler tout à l'heure. Hein. Ce sera avec un grand plaisir. Ah, OK. Hop là. Oui, le malt de seigle. Le seigle, on fait du seigle chez nous, mais c'est en Irlande, on le fait pas en France. En France, on a des malteries un peu partout. En France, on a essayé de le faire, mais tellement qu'il est petit et un peu allongé, il se met sur les grilles, il bouge tout. Et on a essayé d'augmenter le calibrage. Il n'y a rien qui est resté pour faire le maltage. Et du coup, on a une malterie en Irlande qui a vraiment les grilles des plus petites et ils arrivent à faire du seigle. Et le problème avec le seigle, c'est aussi une céréale sans gluten, mais le problème avec du seigle, c'est une éponge. C'est pour ça qu'elle boit beaucoup d'eau. La céréale seigle boit beaucoup d'eau. Du coup, on fait des trempes jusqu'à 9 heures. 9 heures de trempe, c'est énorme. Pour moi, je dis 9 heures de trempe, c'est... Soit il faut faire 2 trempes, 12 sous eau, essayer de décaler, mais le process, c'était 9 heures. Et ça permet vraiment au seigle de boire de l'eau. Énormément d'eau. Et puis, une germination, une température de germination un peu élevée aussi, entre 20 et 25 degrés Celsius. Et sachez bien, quand on parle des températures de germination élevées, c'est là où il y a le risque microbiologique qui est élevé aussi. Du coup, toujours, quand on fait un batch de seigle, on essaye d'analyser la microbio. Qu'est-ce qu'on cherche ? Il ne faut pas qu'il y ait de la salmonelle et tout. Hein. Sachant bien, c'est beaucoup plus ça. Après, les chercher à coller, ça va ? Il ne faut pas qu'il y ait des pathogènes. Hein. OK ? Voilà. Et la température de gélatinisation, toujours on parle de ça, j'ai dit 60 à 75, en général le seigle, on rajoute directement pendant la maïche, là, hop, à la première étape. Et ça permet, et le seigle, l'avantage du seigle, on l'utilise aussi en distillerie, mais par contre pour la bière, nous on recommande jusqu'à 15% maximum, parce que sinon la bière, elle sera jamais, et on ne peut pas la filtrer. C'est pareil que pour l'avoine qu'on va voir après. Il faut toujours, il y a la partie de température et tout, mais la teneur en bêta-glucane aussi. De plus en plus que les bêta-glucanes sont élevées, de plus en plus je ne peux pas filtrer, mais les bêta-glucanes, même si on dit qu'elles ne sont pas bonnes et tout, mais ça donne du corps à la bière et ça améliore la qualité de la mousse, ça donne du corps. Tout ce qui donne du corps améliore. Okay ? Mais pour le brasseur, il ne faut pas en utiliser beaucoup. Okay ? Et c'est pour ça, quand vous utilisez par exemple des seigles, ce qu'on recommande des fois, c'est de faire un palier à 45 degrés Celsius pour essayer d'éliminer, et 45-50 pour essayer d'éliminer le maximum possible de bêta-glucane. Et vous allez voir, si vous avez un malt qui filtre mal et tout, soit vous achetez un autre malt pour mélanger, sinon vous faites un palier à 45, ça peut aider énormément. Ok. Hop là. Le malt d'avoine. L'avantage de ces céréales, c'est qu'on a choisi toutes les céréales qui sont sans gluten. Hein. On propose de l'avoine. Sachez bien que l'avoine, le riz, le maïs et le seigle, on propose soit, et vous pouvez les acheter soit sous forme maltée, sous forme de grits et sous forme de flocons. Et vous savez, c'est quoi la différence entre les grits, les flocons et le malt, ça c'est bon, mais les grits, c'est les flocons. Les grits, c'est le grain concassé, en petits morceaux, et les flocons, c'est le grain qui est traité avec de l'eau très très chaude ou de la vapeur très chaude, et on le laisse en contact du grain, et puis on aplatit le grain. C'est pour ça que quand vous achetez des flocons, ils sont aplatis, et des coulas à l'amidon, il est plus accessible que c'était les grits ou la céréale telle qu'elle est. Okay ? Et quand vous utilisez des flocons, ou vous utilisez la céréale telle qu'elle est, il faut toujours soit utiliser un palier à 45 pour éliminer les bêta-glucanes, enfin réduire les bêta-glucanes. Sinon, pour les grands, utiliser des bêta-glucanases ou une mixture qui va enzymatique. Et l'avoine, en général, c'est la céréale qui est utilisée pour toutes les nouvelles bières. Ça dépend après de la qualité. Il y a plusieurs types d'avoine. Il y a la blanche, il y a la noire. En général, on utilise la blanche. Et c'est celle qui donne un peu une couleur laiteuse. C'est comme du lait pour les bières, les New Indian Pale Ale. Là. OK ? Les NEPA. C'est pour ça qu'on l'utilise énormément en ce moment. Hein. Ça ne veut pas dire que ça revient à la mode, mais de plus en plus, on a beaucoup de demandes en malt d'avoine ou des flocons d'avoine. Le seigle, pas énormément, c'est pour la distillerie en ce moment, mais pour la brasserie, on en a énormément de demandes des flocons d'avoine. Et on le dit toujours, il faut faire très très attention quand vous utilisez ces flocons. Soit vous faites un palier à 45 pour réduire les bêta-glucanes, sinon, si ça ne filtre pas, il faut utiliser à peu près ce qu'on appelle la paille de riz ou quelque chose qui va jouer un support de filtration. OK ? Et je vais dire quelque chose aussi. Hein. Imaginons, on parle du maltage, tout ça. Sachez bien que tous ces grains-là, vous pouvez les utiliser tels quels sont, sans maltage. Hein. En France, la législation m'autorise à utiliser 50%. Si je l'utilise à 10%, 5%, je peux l'utiliser. Ça sera une bière, toujours. Et je ne vais pas l'acheter comme malt, je l'achète comme céréale, comme il est. Mais, comme on a dit toujours, il faut soit utiliser un malt diastasique, on va dire qu'il y a beaucoup plus d'activité enzymatique, soit faire des paliers à 45 pour éliminer ces problèmes de bêta-glucane. Et tester le goût si ça vous va aussi. OK ? Je dis ça, j'ouvre une petite parenthèse aussi pour tous les microbrasseurs qui veulent utiliser. Je veux malter mon orge, la fabriquer telle, mais non, ils ont une petite quantité. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent malter des petites quantités. Sachez bien que vous pouvez utiliser une partie crue, comme on appelle un grain cru, l'orge crue. OK ? C'est pas bon pour le malteur, mais... Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces malts spéciaux, enfin, les d'autres céréales, ou vous voulez qu'on parle à peu près d'autres céréales. OK. Sinon, je continue. Et là, je vais vous parler des dernières, c'est ce qu'on appelle les malts infusés. L'idée, on s'est dit, voilà. Aujourd'hui, on a vu, par exemple, pour les copeaux de bois, on rajoute des copeaux de bois pour faire le vieillissement, ou on fait le vieillissement dans des fûts de chêne pendant des années, hein. Où on essaye, il y a beaucoup plus aujourd'hui on fait même des infusions dans la brasserie pour apporter des arômes et tout. Et nous on s'est dit on va le mettre dans le malt directement. Comme ça vous allez acheter un malt, utiliser, et ça vous donne vraiment des arômes dans la bière. Sachez bien que c'est toujours en phase d'étude. Hein. On a des bières qui sont prêtes, on utilise, on est en vieillissement, ils sont en vieillissement depuis un an. Et sachez bien qu'une bière, normalement au bout de 3 mois, ça change. Alors là je vous parle au bout d'un an. Pour le moment, j'ai quelques bières qui ont passé la délio, que vous pouvez venir déguster après. Et ces malts spéciaux, c'est quoi ? On s'est dit, voilà. La première chose, on s'est dit, mais pourquoi on ne met pas les plantes, les fleurs, tout ce qu'on veut mettre, on met dans l'eau, on laisse infuser à température, allez, 20-26 degrés Celsius maximum, pendant 12 heures. On filtre l'eau, on récupère juste l'eau claire, sans les matières en suspension. Et je commence ma trempe avec. Ce qui veut dire, c'est l'eau qui était en contact des fleurs et tout, qui va rentrer dans le process de maltage. On a fait, ça a donné un bon résultat. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les arômes-là, ils étaient volatiles. Ça ne reste pas trop longtemps dans l'orge. je sais pas pourquoi. Hein. Et ce qu'on a décidé, on dit, on met tout, on trempe, on mélange tout et on laisse jusqu'au touraillage. C'est vrai que c'était une catastrophe pour les séparer à la fin. Il fallait des investissements et tout. Mais on arrive à séparer. Mais on a un malt qui est là, ça fait un an et demi. Il est toujours aromatisé. Il est aromatique. Et ce qu'on a essayé de faire avec ça, on s'est dit, voilà, c'est pas innovant de dire, voilà, j'ai mis ça, ça a donné ça et c'est bon. Mais on a poussé les études. Ce qu'on a remarqué, ce qui donne les arômes ou les terpènes qui interviennent pour l'aromatisation, ils interviennent dans la composition biochimique du grain à l'intérieur. On a vu, par exemple, si j'utilise du thym, s'il y a de l'orange et tout, l'intérieur du grain, on va dire la désagrégation des grains est différente entre, on va dire, une plante et une autre. Hein. Il y a des plantes qui vont pousser, il y a des plantes qui vont retarder. Et du coup, des fois, quand on ajoute le début, on a fait le même process, mais maintenant, on sait bien qu'avec quelques plantes, il faut augmenter la germination ou le dosage, et avec d'autres, ça ne sert à rien d'augmenter le dosage, et ça améliore la qualité des grains. OK ? Là, je vais vous donner juste, voilà, là, il y en a quatre différents, avec du gingembre, avec celui qu'on a ici, avec de la lavande, avec du chocolat et tout, et on les a, et puis si vous voulez tester, ça sera l'occasion, ceux qui seront à Brao, si vous pouvez venir, il y aura tous ces matelas. Vous pouvez prendre des échantillons, essayer. Hein. Et pour le pourcentage, oui, ça dépend après. Nous, on dit, voilà, jusqu'à 15%. 15% parce qu'après, ça devient écœurant. Alors là, avec la lavande et tout, si on fait une bière à 30%, c'était un petit peu imbuvable, pour moi. Hein. Et là, je vous montre... Oups, là. Non, attention. Là. Ouais. Excusez-moi. Voilà. Là, c'était les maltages qu'on a fait. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment de. On a rajouté les plantes, les arômes, les épices directement pendant la trempe. Et les résultats étaient époustouflants. D'une part, on se dit voilà, c'était dur pour la partie. Le résultat aromatique, on va dire, qui était époustouflant. On a vu des arômes, mais c'était énorme. Si on met de la lavande, à la fin, on trouve de la lavande, mais avec d'autres arômes. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le grain. Pourquoi je vous parle comme ça? Parce qu'on est toujours en étude. Hein. C'est vraiment, on a pris des doctorants pour essayer d'étudier. Oui.
Dans le cas de la lavande, qui n'est pas très courant à utiliser, enfin bon, il faut bien tester. Est-ce que vous avez fait des pesées de composition, non, des proportions?
Alors, personne n'a entendu la question, mais alors, rien du tout, si tu veux bien la reformuler, merci.
Tu me corriges après. Hein. Est-ce qu'on a fait des pesées de la lavande qu'on a rajoutée? Ah oui, au lieu de, on n'a pas fait un seul essai, on ne s'est pas dit on met 1 kg par tonne. Ah non, mais on a mis plusieurs, on va dire, voilà, c'est la règle 5, on sait bien qu'on ne peut pas aller au-delà de 15 kg par exemple par tonne. 15, 1, milieu, ce qui veut dire 10, 5, 3... Et comme ça, pour avoir une idée. Et on s'est rendu compte qu'il y a des concentrations qui est complètement aberrante. Là, on ne boit même pas la bière. Et d'autres qui est très intéressante. Je ne donne pas les résultats exacts parce que je ne sais pas si j'ai le droit encore. Mais c'est des choses qui sont encore en étude. OK ? Et ces malts-là, qu'est-ce qu'ils apportent à la bière ? À part, il y aura la production de nouvelles bières. Hein, ce qui veut dire qu'il y a une diversification de bières énorme. Hein, et ça marche énormément aux États-Unis aujourd'hui. On va voir comment ça va se passer ici. En plus de ça, ça permet, voilà, pour vous, au lieu d'essayer de nettoyer à chaque fois l'utilisation, là, c'est du malt, on ne voit pas les matières premières, les épices sortir et rentrer. Du coup, c'est un peu pour le nettoyage, c'est plus important. Et ce qu'on a remarqué aussi, on a essayé d'utiliser gingembread bread, celui qu'on a ici, dans des bières APA, et on a remarqué qu'on peut utiliser moins de houblon aromatique. Parce qu'il y a les terpènes, ça rentre. C'est en étude toujours, hein. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui est en développement aujourd'hui avec des écorces ou des fûts de chêne. Hein. On en a une 25 différentes écorces à essayer pour voir c'est lequel qui va correspondre à peu près pour le whisky. Pourquoi c'est très important ça? Vous savez bien que le malt est utilisé énormément dans la partie distillerie. Hein. Et du coup, on essaie de leur préparer quelque chose qui va... Même on essaye de voir si avec quelques copeaux de bois, on ne peut pas remplacer un peu de tourbe. Parce que malt tourbé, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup sur le marché. OK ? Eh bien, c'est fini. Hein. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Merci Yaya de cette présentation. Merci beaucoup pour ces éclairages qui ont surpris un certain nombre d'entre nous et d'entre vous, j'imagine. Il y a déjà une question qui a fusé avant la fin de la présentation. C'est bien ça qui a reçu le trophée.
Exactement. Voilà, c'est les infusions, on a présenté un.
Oui,
mais il y avait 8 autres qui sont en développement.
Ils sont en cours d'élaboration et de finition, peut-être.
Finition, oui. Ouais. Quand on dit finition, on y va jusqu'à la bière. Ouais. Qu'on déguste, qu'on montre aux gens, qu'on va, voilà, leur retour et tout avant de développer autre chose. Hein.
Alors, avant qu'on aille, qu'on ait des questions, il n'y a pas de bras levé pour l'instant, mais ça va venir, j'imagine. Mais ça s'appelle encore bière ou pas au niveau de la législation
C'est une bière parce que. Je vais vous dire quelque chose. Pour avoir appelé le malt malt, on peut faire un malt, Patrick va me corriger, en 2 jours. C'est juste qu'il fasse une trempe, germination, tourraillage. C'est du malt. Il y a le malt dextrine, il y a le malt. C'est intéressant pour quelques entreprises parce que quand ils veulent faire du pur malt, 100% malt, mais le malt ça coûte cher. Mais si on réduit le process, le malt ça va coûter moins cher. Ils peuvent indiquer 100% malt.
D'accord, voilà. Il faut passer autour de ces astuces.
Et pour les arômes, ça sera vraiment une bière. Voilà.
J'avais une question. Parlez bien contre-montant, s'il vous plaît. C'est très important pour qu'on comprenne tous.
J'ai vu que vous avez fait un certain nombre de céréales, mais est-ce que vous avez parlé de l'épeautre, qui est une graine vêtue, proche du blé?
Je n'ai pas parlé d'épeautre, ouais. Mais le malt d'épeautre, il est proche du blé. Et c'est vrai, on peut la malter, mais. Par rapport au blé, elle a des écorces. Des enveloppes. Et du coup, quand on a d'enveloppes, il faut vraiment aller, comme j'ai dit tout à l'heure, faire du micromaltage et tout, parce que les écorces, ça ralentit la pénétration d'eau et toute l'activité. Mais l'avantage de l'épeautre aussi, par exemple, le malt de blé, là, on a vu qu'on l'utilise pour la brasserie. Mais sachez bien que aujourd'hui, même, il y a un énorme pourcentage. Même si je l'utilise à 1%, il est utilisé en panification, en meunerie. Du coup, l'épeautre, c'est l'avantage qu'on essaye de développer ça pour la meunerie. Pourquoi ? Parce qu'il y a les enveloppes, ça protège. Et pour la meunerie ou les autres, comment dirais-je, le blé, par exemple, pour la partie meunerie, le problème avec ça, c'est qu'il y a toute la partie microbio. Il faut vraiment faire un processus spécifique avec un tourraillage pour réduire le maximum possible les chercher à colis, avoir zéro salmonelle. Et même les chercher à colis, on dit voilà, aujourd'hui il faut avoir inférieur à 10 pour utiliser dans la partie alimentation. Même si des fois inférieur à 10, on cherche, il y a des chercher à colis pathogènes, ce qu'on appelle les steaks pathogènes ou non.
Très bien, très important de retenir ça. Si vous voulez entrer dans une conversation directe, vous pourrez le faire après, hein, si vous voulez. Mais si ça fait avancer la question. Voilà.
La problématique fusariose en Malte.
Comment?
L'impact fusariose en Malte, grosso modo, quel est l'impact? On parlait de E. coli, salmonellose.
Ah, le fusarium dans le malt, c'est ça?
Oui, enfin, dans ce qui doit rentrer dans
le fusarium, on le trouve dans les champs, ça vient dans les orges, hein, et ça dépend des récoltes, s'il a fait chaud, froid, s'il a plu et tout. Le fusarium, c'est celui qui va causer des gauchings après, mais chaque récolte, quand on récolte, on analyse tout ça avec des labos qui sont spécialisés. On fait toujours s'il y a du fusarium, on fait s'il y a du gauchings. Et sachez bien que tous les batchs pour les microbrasseurs, quand il y a une suspicion de fusarium ou de gauchings, sont analysés. Parce qu'il y a la refermentation bouteille, et la refermentation bouteille, il y a beaucoup de nucléations, il y a des gauchings partout. C'est pour ça qu'on fait très très attention pour le gauchis, pour les microbrasseurs. Du coup, le fusarium, normalement cette année, il n'y a pas de fusarium. Patrick, non? Il n'y a pas de fusarium.
Alors, c'est derrière les micro-malteurs, ça existe, hein?
Oui.
Ils n'ont pas les capacités d'aller aussi loin dans les analyses que vous présentez, j'imagine.
C'est vrai.
Comment on fait pour avoir un peu plus de certitude ou est-ce qu'ils ont des perspectives par là?
Pour les micromalteurs, c'est vrai que c'est des fois pour avoir. Pourquoi c'est comme un grand brasseur, un petit brasseur. Par exemple, un grand malteur, il va faire 100 tonnes, 200 tonnes d'un seul coup. Il va analyser une seule fois. Mais un microbrasseur, pour faire 100 tonnes, il doit faire 10 fois, 10 batchs différents. Il ne va pas faire des analyses, sinon il va vendre le. Enfin, il va S'il peut faire des années, c'est bien, mais sinon le mat, ça va coûter plus cher. Du coup, pour les microbrasseurs, ce qu'il faut, ils se rapprochent du FBM, Caltech ou des organismes qui sont spécialisés. Ils vont vous dire, voilà, s'il y a des gauchings cette année ou il n'y a pas de gauchings. Ou d'autres malteurs, par exemple nous, on partage avec les microbrasseurs, les micromalteurs aussi, par rapport à cette année, à quoi il faut faire attention. Par rapport, l'année dernière, c'était les protéines, mais cette année, normalement, il n'y avait pas de fusarium, il n'y aura pas de problème de gauching. Et ce que je dis pour les micromalteurs, moi, si je suis brasseur en face, il faut au moins faire les trois analyses qui sont importantes. Il y a la couleur, à peu près, si vous pouvez la faire. Il y a les couleurs rapides, ce qu'on appelle la couleur rapide, que vous pouvez faire chez vous, rapidement, 30 secondes, 3 minutes, vous pouvez avoir le résultat. Okay ? Et faites une friabilité, ça c'est très important, parce que si je connais ma friabilité, ça va me donner une idée sur la dégradation, la désagrégation du grain. Ça va me donner une idée sur surtout la friabilité, elle est très importante. Et ce qu'il demande aussi le client, c'est l'humidité, hein, parce qu'il ne veut pas acheter de l'eau. Hein.
Bien sûr.
De un, il ne veut pas acheter de l'eau, et de deux, il ne veut pas stocker du malt qui est à 6-7% d'humidité, parce qu'on ne peut pas stocker longtemps. Dès qu'on retient, il y a la couleur, il y a l'humidité et la friabilité. Ça ne coûte pas trop cher un friabilimètre, hein, et on peut l'utiliser tout le temps, mais au moins avec une friabilité, on peut dire, voilà, est-ce qu'on peut, on est bon, on n'est pas bon. Si vous faites une friabilité, vous voyez que vous êtes inférieur à 80, il faut se poser une question. Alors là, si vous êtes inférieur à 75, il faut essayer d'analyser chez quelqu'un d'autre. Hein. C'est très important, parce que même si on donne à un microbrasseur un bon malt, s'il y a ces problèmes-là, ça va causer énormément de problèmes pour le brasseur. Et moi, en tant que brasseur, je suis prêt à payer et à avoir au moins des analyses. Même si vous avez une friabilité de 75, si vous le savez, vous pouvez toujours conseiller le microbrasseur pour faire une bonne bière, que ça filtre.